Bonjour à tous et bienvenue dans cette embellie réalisée par Juliette Gou, préparée par Arnaud Jamin et mise en musique par Juliette L'Orphelin. À la technique ce matin, Julien Michel. Porter son regard cette semaine sur le livre Jean-Pierre Melville, le solitaire de Bertrand Tessier, paru chez Fayard en 2017. Déjà parce qu'il s'agit de la biographie d'un génie, ensuite parce qu'en plus de découvrir des anecdotes illustrant ce qu'on connaît de lui, esprit, finesse, élégance et maîtrise absolue de son art, on perçoit aussi les inclinations tyranniques du créateur qui donnent parfois lieu à des scènes cocasses, celle par exemple rapportée par Tavernier, alors assistant stagiaire de Melville, qui raconte que le réalisateur, détestant perdre du temps, arrive un premier jour de tournage sur le plateau et déclare à l'équipe, je vous dis bonjour aujourd'hui, ce sera valable pour toute la durée du tournage. Pianiste, compositeur et vidéaste, notre invité façonne des œuvres hybrides et accompagne ses créations musicales de films expérimentaux. Ancien chef d'orchestre, il a composé pour tous les écrans, a accompagné sur scène Phoenix et Sébastien Tellier et a collaboré avec divers artistes comme Frank Ocean, Solange Sofical ou Xavier Veillan. Disciple dévergondé de l'école minimaliste, l'érudit capture les bruits du réel pour en faire des harmonies. Son dernier album Ludi est sorti sur le label Tricatel. Il anime également l'émission musicale Ground Control sur Arte, dans laquelle il reçoit des invités pour des lives, ce qui est assez généreux de la part d'un musicien, n'hésitons pas à le souligner.
L'embellie. Eva Bester sur France Inter.
Bonjour Chassol.
Bonjour Eva.
Êtes-vous content d'avoir été mis au monde?
Ça se fait pas les moments de silence en radio, c'est
si,
ça?
Si, il y en aura en plus aujourd'hui.
D'accord. Non, il faut réfléchir. Je me souviens que vous m'avez fait un questionnaire qui était quand même assez intime. Hein.
Non, pas tant que ça.
Vous trouvez pas que c'est intime?
Non, je trouve pas. Bah, ça dépend, c'est les réponses qui sont indiscrètes.
Franchement, je suis ravi, oui. Je suis ravi de connaître l'existant plutôt que pas, oui. Je trouve ça fantastique. Pour moi, c'est comme de la magie, en fait. J'avoue que, vu que je comprends rien, vu que je suis nul en physique, toute action, tout ce qui se passe dans l'existant me paraît complètement dingue.
On sent une ironie.
Ah non, j'étais vraiment mauvais en physique.
Non, mais pas dans la physique, mais dans le fait que vous vous réjouissiez d'être né.
Non, il n'y a pas d'ironie. Non. L'ironie, non, c'est que quand c'est marrant. Mais je trouve l'existant fou, quoi.
Chassol, comment se passe la cohabitation avec vous-même?
Oh, très très bien. Alors, je me connais très très bien et je fais en sorte de bien me traiter.
Depuis toujours?
Depuis longtemps.
Et ça a toujours été le cas?
La conscience, l'âge de raison, c'est vers 7 ans. Avant, on se souvient un peu, quoi, de...
Et vous pensez vraiment qu'on est raisonnable à partir de 7 ans?
Non, c'est pas qu'on est raisonnable, je parle de la raison, je parle de la conscience, d'avoir conscience, quoi. C'est vers cet âge-là, vers l'entrée à l'école primaire, qu'on se rend compte qu'on a des souvenirs, par exemple. Je me souviens du CP, de voir une image dans ma tête qui appartenait au passé. Et de me dire, ah, elle est chouette cette image. C'était l'image d'un pote, d'ailleurs, près du bac à sable. Et donc, je me disais, ah oui, c'est ça les souvenirs. Et donc, à partir de ce moment-là, ça devient intéressant. On convoque, on a des tiroirs dans la tête.
Vous êtes un bon ami pour vous-même, en tout cas.
Je me traite bien. Ouais.
Ce qui vous donne envie de vous lever, Chassol, est assez énigmatique. C'est une porte entrouverte la veille. Alors, j'imagine pas une porte en placo. Quel type de porte?
La question était donc, qu'est-ce qui me donne envie de me lever? C'est vrai que c'est assez dur comme question. Quoi, parce que c'est en effet le fait d'avoir travaillé à quelque chose la veille et qu'il est urgent, que j'ai vraiment envie d'ouvrir en plus grand, quoi.
Vous faites des teasers en fait la veille pour avoir envie de vous lever le matin.
Non, en fait, je travaille sur quelque chose qui est tellement excitant, qui est la promesse d'une trouvaille et d'une prochaine trouvaille, et donc ça m'excite de me lever pour aller ouvrir en plus grand la porte qui a été entrouverte.
Vous êtes votre propre Scheherazade.
Non, je subis aussi, je regarde des films, j'essaye de lire un peu.
Bon, dans un instant, il sera entre autres question d'oiseaux, de cosmos, de travail, de Franz Fanon, de Chick Corea, John Cage, d'Herman Hesse. Faites pas comme si vous étiez étonné, c'est vous qui avez choisi ces sujets.
Non, j'ai fait un ah ouais d'approbation.
Ah d'accord, ah oui. Alors j'approuve aussi du duo Kay and Peele et de West Side Story. After Midnight, nouveau titre du groupe Phoenix pour lequel notre invité a été arrangeur et claviériste. Nous sommes dans l'embellie sur France Inter avec Chassol et quelques oiseaux. Chassol, c'est votre composition Birds Part 1 sur l'album Big Sun, paru en 2015, qu'on entend. Mais on aurait pu choisir votre performance Ultra Birds au musée d'Orsay ou encore la chanson Les Oiseaux avec Aqua Serge pour illustrer ce que vous aimeriez changer dans votre environnement, avoir plus d'oiseaux autour de vous. Et là, je pense à votre morceau Le Jeu de la Phrase, où il y a un jeu où on doit dire un mot et puis ensuite la personne répète le mot, en dit un autre et ainsi de suite. Et le premier mot, c'est The Bird. C'est une obsession chez vous?
Oui, chez pas mal de compositeurs, les oiseaux sont des obsessions, je pense, parce que les compositeurs ils prennent du matériau. Alors quand on commence, on a les gammes, les notes, et puis au bout d'un moment, c'est pas qu'on se lasse, mais c'est qu'on cherche les autres sources, et c'est un peu la source la plus évidente qui est autour de nous, quoi. C'est la plus musicale, disons. La chose de la nature la plus musicale qui est accessible, quoi. C'est assez fascinant, quoi.
Vous en avez filmé dans Big Sun, en Martinique. Vous allez les observer souvent? Vous en possédez? Vous allez les voir?
Ah non, je possède pas d'oiseaux, mais je veux dire, oui, je suis aux aguets. Je suis aux aguets sur, sur ce qui se passe, sur les sons qui émergent de dehors. Mais ceux-là, c'est pareil, c'est un peu comme de la magie aussi. On a l'impression d'être dans un Walt Disney. Dans la forêt, je les écoute. C'est hyper dur de filmer un oiseau et d'avoir son son et son image en même temps. Une bonne image et un bon son en même temps. C'est un métier, quoi, documentariste, animalier.
Vous savez les reconnaître?
J'essaye, mais j'y arrive pas. C'est trop dur. Les noms sont pas évidents. Je trouve que les noms sont pas évidents. J'essaye d'apprendre des choses par cœur un peu. Parce que pendant le confinement, j'en ai fait, mais peut-être une cinquantaine. J'ai mélodifié, harmonisé une cinquantaine d'oiseaux et j'essayais de retenir les noms. Rose Finch. Ça rentre pas.
Chassol, vous avez une autre obsession, c'est le préfixe ultra que vous accolez à plusieurs mots, notamment vos ultra scores. Ouais. M'ont donné initialement un fichier pour faire le ménage sur votre disque dur.
Oui.
Vous harmonisez les sonorités du quotidien, vous isolez des sons, des phrases, des chants d'oiseaux, des cris d'enfants. Vous en faites de la musique. Pourquoi ultra?
Ultrascore, c'était pour désigner quelque chose d'hyper objectif. En fait, un score, c'est une partition, c'est une musique de film. Et cette musique de film, elle se nourrissait donc d'éléments concrets, c'est-à-dire c'était une musique de film qui se fabriquait avec les éléments sonores du film. Donc, c'est une musique de film hyper objective. Ultra objective!
Ah oui, là on comprend.
Ultra, voilà, comme ça.
Vous faites des films pour accompagner vos albums. Il y a No La Chérie avec des bruits dénichés à la Nouvelle-Orléans, India Mort à Calcutta à Bénarès, ouais. Big Sun en Martinique. Est-ce que vous savez ce que vous cherchez quand vous allez chasser les sons ou est-ce que vous tombez sur des sons par accident?
Les deux. C'est-à-dire que je prépare avec une ou deux obsessions. Par exemple, en Inde, la principale chose que je voulais en Inde, c'était avoir un percussionniste, un joueur de tabla, qui me fasse ce qu'on appelle des bols, des teka. Donc c'est une tan, digdin, tan, digdin, tan, 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 c'est-à-dire qu'ils chantent les syllabes des frappes percussives qu'ils font. Et je voulais avoir ça et mettre ça en musique, c'est-à-dire relever la mélodie de leur voix faisant ces teka et l'harmoniser, mettre des accords occidentaux derrière, quoi. Donc je suis parti avec, c'était ça ma trame, et donc autour de ça je laisse en général un jour ou deux de battements entre les rendez-vous pour tomber sur des choses au hasard.
J'imagine que vous avez une sensibilité aiguë à la rumeur du réel, ce n'est jamais douloureux de tout entendre?
Non.
Vous hiérarchisez les sons?
Non, c'est plus comme un interrupteur, c'est-à-dire qu'il y a des moments où c'est actionné et puis d'autres moments non. C'est la différence, toujours la différence entre écouter et entendre.
Chassol, il y a un autre changement que vous désirez dans la société, c'est la notion de propriété privée et de commun.
Ouais.
Qu'est-ce que vous entendez par là?
Disons que si je réfléchis, j'essaye de me demander d'où viennent les problèmes. J'en reviens tout le temps à cette idée de propriété privée. Enfin, je veux dire.
Et vous êtes pour le partage absolu, l'ultra-partage?
J'aimerais bien être assez fort intellectuellement pour penser ça. Et pour penser qu'il ne faut pas de propriété privée, quoi.
Même une brosse à dents?
Oui, ça sert à rien, ça. On partage d'autres fluides.
Pas toujours et pas avec tout le monde.
Non, pas toujours. Non, mais c'est hyper compliqué. J'aimerais pouvoir me dire que la propriété privée n'existe pas, quoi. Et qu'on partage plus de choses, l'eau, ce genre de choses. Mais intellectuellement, je suis trop faible pour pouvoir vraiment me départir de mon éducation, de tout ça.
Mais c'est peut-être pas uniquement individuel, c'est peut-être aussi parce que collectivement, on s'est pas penché sur la question.
Je pense toujours que si quelque chose est réalisable individuellement, on peut le réaliser collectivement, donc je pars d'abord de la...
Oui, c'est vrai, souvent c'est le changement vient de soi, mais il y a une force collective aussi, il y a une motivation quand on est dans un groupe, en communion.
Oui, mais j'ai l'impression qu'on est d'abord solo, ouais. Et puis qu'ensuite on sort de chez soi.
D'abord solo. dans l'embellie sur France Inter. Chasseur.
Non, mais c'est pas une mauvaise chose. Hein. Non, j'aime bien. Moi, je vous dis, vous me demandiez si j'aimais bien vivre avec moi-même.
Oui.
Ah oui, mais moi, franchement, je m'amuse bien, oui. Après, c'est difficile de partager. Et j'aime bien le faire. On se rend compte qu'on gagne tout le temps plus à partager. Que quand on partage, il y en a un peu plus.
Mais la musique, c'est quelque chose qu'on partage.
Ah ouais, ouais, c'est génial d'ailleurs de penser à l'autre quand on fabrique la musique.
Dans vos engagements, il y a la fabrication justement minutieuse des choses que vous qualifiez de solides et cosmiques. Qu'est-ce que vous entendez par là? Solide, qui dure dans le temps, qui danse comme une tapisserie?
Oui, je vois ça comme une tapisserie, exactement. C'est une très bonne image, parce que quelque chose de solide, des liens qui s'en mêlent. C'est des fondations, quelque chose de bien structuré, mais qui soit léger en même temps. Et puis de le faire de façon minutieuse, avec cœur, avec amour, passion, faire bien son travail, quoi. Et moi, je me suis dit que, parce que votre question c'était est-ce que je militais pour quelque chose.
Non, je vous avais demandé si vous étiez engagé, mais ça peut être un engagement existentiel, c'est pas forcément militant.
Oui, bon, moi c'est vrai que c'est ma technique pour ne pas passer à l'acte de donner vraiment mon temps à une association. Et je me dis que j'essaie de faire bien mon travail de façon minutieuse, c'est-à-dire avec le cœur, en passant du temps, beaucoup de temps sur chaque mesure.
Quand vous dites cosmique, Chassol, c'est qui transcende ou qui embrasse tout?
Ouais, c'est-à-dire c'est en incluant la notion de mystère, en incluant les notions de choses qui nous échappent, quoi. Et parce qu'en même temps, on a une espèce de volonté de total, quoi, d'art total, un peu qui est un peu vaine, qui est un peu surtout quand on a 20 ans, j'ai l'impression, on veut pouvoir en faire tout, parler de tout en même temps. Mais moi j'ai l'impression que si on fait une chose dans l'infiniment petit, une chose très petite, mais qu'on la fait hyper bien, qu'on l'épluche comme une agrume, qu'on épluche, ou dans laquelle on regarde la pulpe, vraiment on l'ouvre complètement, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur, on la décortique, on l'analyse. Si on fait ça, j'ai l'impression que si je fais ça très sérieusement, je perds pas mon temps et je parle du tout, quoi, je parle du cosmos. Un peu comme en musique indienne, la musique classique indienne, la musique du nord de l'Inde, mais elle est tellement cosmique, c'est-à-dire qu'eux, ils ont besoin d'une basse, d'un tempura qui fait comme un bain d'une seule note, comme ça, d'une basse qui nous enveloppe. Et puis, là-dedans arrive, au-dessus de ça, il y a juste une mélodie, voilà, qui est en alignée avec cette note et qui revient toujours à cette note. Et donc là, on est aligné. Et pour moi, ces micro-variations, elles parlent du tout, quoi, du cosmos. C'est comme un hologramme qu'on découperait en plein de petits morceaux. Un seul micro-morceau détient tout l'hologramme, quoi. Donc, moi, j'ai l'impression que si on fait quelque chose de minutieux, bien fabriqué, on parle de tout, quoi. On parle du tout.
On dit couramment que le racisme est une plaie de l'humanité. Mais il ne faut pas se satisfaire d'une telle phrase. Il faut inlassablement rechercher les répercussions du racisme à tous les niveaux de sociabilité. L'importance du problème raciste dans la littérature américaine contemporaine est significative. Le nègre cinéma, le nègre le folklore, le juif et les histoires pour enfants, le juif au bistrot sont des thèmes inépuisables. Le racisme, pour continuer avec l'Amérique, hante et vicie la culture américaine. Et cette gangrène dialectique est exacerbée par la prise de conscience et la volonté de lutte de millions de Noirs et de Juifs visés par ce racisme.
Le psychiatre, essayiste et figure majeure de l'anticolonialisme Frantz Fanon au Congrès international des écrivains et artistes noirs en 1956.
Mais c'est dingue.
Chassol.
Je ne l'avais jamais entendu, Fanon. J'avais jamais entendu sa voix, oui.
Ah oui, c'est vrai, on le lit dans cette si belle langue qu'il maîtrise à la perfection.
Ouais.
Parce que je parlais de Jean-Pierre Melville tout à l'heure, qui aussi la maîtrise à la perfection, mais dans un autre genre. Et puis, dans votre livre de chevet, Peau noire, masque blanc, paru en 52, il y a cette phrase. Aussi pénible que puisse être pour nous cette constatation, nous sommes obligés de la faire. Pour le noir, il n'y a qu'un destin, et il est blanc.
Je me souvenais pas de cette phrase. Vous me posez une question ou pas, là, Eva?
En fait, d'abord, je voulais voir ce que ça allait provoquer chez vous. Voir comment vous vous identifiez. Mm-hmm. Je crois que vos parents étaient martiniquais.
Oui.
Comme lui,
oui.
Comme Frantz Fanon, que je vous montre, mm-hmm. qui est sublime sur cette couverture.
Ouais.
Pourquoi ce livre? Pourquoi ce choix? Qu'est-ce que ça réveille chez vous, Chassol?
Ça, j'ai lu ça quand j'avais peut-être 15 ans. Et ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, ah oui, d'accord. Je comprends ce qui se passe. Je comprends où je suis dans le monde. C'est-à-dire, par exemple, il y a un moment, je lisais ce bouquin, Peau noire, masque blanc, et je lis tous les comics, toutes les bandes dessinées. Il n'y a aucun héros noir, quoi, par exemple. Je lis ça, et donc je me rends compte que oui, je lis Tintin, Astérix, etc., et que je n'ai aucun référent, aucun modèle noir, quoi. Donc, c'est une chose parmi d'autres. Donc, le livre est divisé en pas mal de chapitres. Il y a 5 chapitres, je crois. Il y a le nègre et la psychopathologie, l'expérience vécue du noir. Il y a l'homme noir et la femme blanche, la femme de couleur et l'homme blanc, le complexe du colonisé, je crois. Et alors, moi, j'ai appris des choses. J'ai lu des choses qui se sont imprimées, qui m'ont marqué à vie, comme un nègre tend l'oreille quand on parle du juif, on parle de toi. Il dit que le juif est le danger financier, et le nègre le danger biologique. Et là, je suis là, ah mais oui, mais bien sûr, c'est pour ça qu'il y a toujours un truc, une pulsion sexuelle, raciste, animale, un peu, chez les racistes. Ils sont toujours à nous ramener à un truc d'animalité. Ah, mais tu cours vite, mais c'est super, ça, vous courez vite, hein, quand même. Bon, voilà, ça, c'est du racisme à l'ancienne, quoique c'est pas tant à l'ancienne, hein, ça a la peau dure, hein, le racisme. Le de Fournas, là, par exemple, le député, je veux dire, c'est un classique. Je veux dire, il y a même pas de débat, quoi. Enfin, c'est une insulte...
Ringarde, presque.
Bah, ouais, après, oui, c'est...
Franchement.
Non, mais disons que nous, moi, ça fait... Comme je suis né en 76 et on rigolait avec mes amis, les amis blancs que j'ai, on rigolait de ce genre de phrases tellement elles nous paraissaient archaïques. Donc c'est fou qu'ils en soient encore là, quoi.
Chassol, vous avez étudié la philosophie à la fac.
Oui.
J'y pense parce que dans Peau noire, masque blanc, qui est signé dans le psychiatre, il y a plein de références culturelles en philosophie, il y a Sartre, en littérature... Et vous dites que la philosophie vous a appris à concevoir vos morceaux comme des pièces, des lieux de vie.
Oui, c'est vrai. Ça nous a appris surtout, enfin pour moi, c'était comment poser des questions, comment poser bien des questions. Et puis, oui, à réfléchir des structures, des plans. Donc, oui, par exemple, Big Sun qu'on a tourné en Martinique, ce film qu'on a sorti en disque et en film en 2014-2015. Bah, je l'ai conçu, ouais, comme une petite disserte de gars de terminale. C'était, en gros, c'était nature, culture, et puis troisième partie, vivrons-nous dans un monde comme dans 1984 ou dans le meilleur des mondes ?
Et la réponse ?
Non, en fait, c'était, il y a une troisième voie, quoi. Ou bien les choses sont compatibles, c'est-à-dire qu'on peut, une chose n'exclut pas l'autre, quoi. C'est-à-dire que, oui, enfin... Il y a de la place pour tout, quoi. Et donc, oui, c'était la structure, en l'occurrence, c'était la nature. Je voulais filmer la nature, les oiseaux. Ensuite, je voulais filmer la langue. Et puis, le carnaval, qui est un peu un retournement, quoi. Qui est un moment autre, quoi, où les valeurs s'inversent. Donc, bon, ça fait vraiment disserte de philo. Mais les penser comme des lieux de vie, j'adore penser les structures des spectacles. Où, ça m'aide vraiment, c'est vraiment très aidant, quoi. Quand on bosse à plusieurs, par exemple, on a fait une création dernièrement avec Jocelyn Mieniel. Moi, j'ai pas l'habitude de bosser à plusieurs. Et là, de décider d'un plan à plusieurs, c'était un peu une torture, quoi. C'était pas facile, quoi. Moi, je sais que les plans, pour moi, c'est pas très dur. C'est pas à ce moment-là que c'est dur, en fait. Je prends toutes les idées, je les mets comme ça, et j'essaie de faire un alignement, comme ça. C'est-à-dire, là, je fais des gestes pour les auditeurs.
Là, vous croisez vos bras.
Oui, enfin, je montre qu'il y a plein de choses sur les côtés, et je les ramène dans une seule ligne droite.
Vous les ramenez très bien.
Ouais, merci. Et donc, oui, c'est comme une maison. Donc, la maison du prochain album, je me dis, est-ce que c'est... c'est une maison à un étage, est-ce que c'est une tour,
oui,
est-ce qu'il y a des
visuel
tours.
Visuel et spatial.
Ouais, est-ce qu'il y a un garage ?
Il y a un garage ?
Il n'y a plus de garage, non, il n'y a plus les voitures.
D'accord. On écoute la voix d'un autre artiste qui a changé votre rapport au monde, Chassol.
J'ai trouvé l'Inde tellement énorme que j'ai résisté à l'idée d'introduire d'autres réalités dans cette réalité-là. Sauf que un beau jour, un jour très tourmenté devant ma porte, un jour d'orage et de tempête, le soleil a traversé les nuages avec une telle force, ou les nuages ont traversé le soleil avec une telle force et ont traversé les arbres devant ma maison. Je suis monté pour chercher la caméra, j'ai filmé. Mais ce qui est étonnant, que souvent les gens ne me remarquent même pas. Ces arbres ne peuvent pas exister en Inde parce que c'est tellement intégré dans le rythme des choses qu'on ne se rend pas compte qu'on est soudainement dans un pays où existe l'hiver.
Interview du réalisateur et photographe néerlandais Johan van der Keuken par Jacques Kermabon dans Le Bon Plaisir en 98 sur France Culture. Chassol, vous avez choisi son documentaire de 88, L'œil au-dessus du puits, sur les pratiques de transmission du savoir en Inde.
Ouais. C'est un documentariste génial qui m'a ouvert les yeux aussi. Pareil, c'est le genre d'œuvre où on fait « Ah oui, d'accord, on a le droit de faire ça, d'accord ». J'aime bien, j'adore les moments comme ça. J'ai eu ça avec 2001, ou Chris Marker, par exemple, comment s'appelle son film Sans Soleil. J'ai vu ça, j'ai fait « Ah, mais oui, mais on a le droit de faire des films de 4 heures ». Ok, c'est pas forcément 1h30 avec un climax et tout. Donc, je sais pas, oui, voir qu'il y a d'autres formes, comprendre qu'on a le droit de faire d'autres formes, c'est quand même assez génial quand on se construit, quand on cherche à créer soi-même. Moi, j'ai compris qu'il avait Johan van der Keuken, donc il partait avec sa femme et elle prenait le son et lui, il était à la caméra. Ses sons et ses images, il les utilise comme des Lego. Il y a des moments, il y a des images qui viennent de certains films qu'on retrouve dans d'autres films, du son
décalé.
En décalé. Ouais, enfin, quand je parle de Johan van der Keuken, je parle de l'œil au-dessus du puits parce que j'étais dans une phase indienne où je regardais tout ce qui venait pour faire India Mort, ouais, que je suis parti filmer en 2012. Mais il y avait aussi les films de Louis Malle qui s'appelle L'Inde fantôme. C'est des super beaux films où il y a sa voix off vraiment très presque moralisatrice, où il explique on voit des chanteuses, des danseuses de Bharatanatyam, et il dit regardez, elles qui sont françaises et qui sont en Inde, il fait regardez ces danseuses, elles n'auront jamais la grâce des danseuses indiennes. C'est un truc complètement hardcore. Et donc voilà, je regardais L'Inde fantôme, tout ça, et puis je sais plus comment je suis tombé sur Johan van der Keuken, mais c'est ça aussi, les gens qui nous donnent des liens pour des œuvres qui nous changent, on les aime à vie, ces gens-là. Mais je sais plus qui m'a fait découvrir Johan van der Keuken. Je sais plus comment c'était. C'est peut-être les cinémas MK2 qui ont ressorti tous les coffrets à l'époque quand on achetait des DVD encore. Voilà, et donc le Johan van der Keuken, il est parti un peu partout, et il fait donc comme ça, du Lego avec ses films, et notamment, j'ai eu ce truc avec un film à lui qui s'appelle Blind Kind, je sais pas
aveugle.
Si on a le temps que je dise ça, très rapidement, il suit une école d'aveugles, d'enfants aveugles, et il suit Herman, qui est un jeune homme génial, qui adore la radio et le jazz, et il le filme avec sa famille, ses amis, tout ça c'est en noir et blanc, c'est magnifique, et Herman a des yeux dingues, et il fait le reporter un peu, Herman, et donc à un moment, sa mère lui dit, oui, je vais t'emmener aux courses automobiles, et il fait bon, je peux regarder ça à la télé. Déjà première blague puisqu'il est aveugle. on le retrouve ensuite sur le champ de course avec les voitures qui passent, qui font. Il se tire la tête dans les mains comme ça et on voit les voitures passer. Le cadre est génial. Et le plan d'après, c'est Herman chez lui avec une boîte de conserve, un micro et qui fait. Et donc là, on comprend que les sons des images qu'on voyait, c'était Herman qui l'avait fait avec une boîte de conserve et un micro. Et on fait « Ah oui, on a pu faire ça. Interesting. » Vous voyez ? Oh !
Vous avez l'oreille absolue, Chassol ?
J'ai une très bonne oreille relative.
Ah oui, bah c'est relativement impressionnant. En tout cas, 1979, la Fiesta...
72.
72 ?
Ouais.
Ah, merci.
De rien.
La Fiesta, un des standards du mythique pianiste de jazz Chick Corea, auquel vous avez rendu hommage, notamment l'année de sa disparition en 2021 sur France Musique. Vous avez fait l'éloge de sa capacité d'improvisation. Parlez-nous de cet homme qui se définissait lui-même comme un papier buvard.
Ah oui, c'est vrai ?
Ouais, pour toutes les musiques qu'il entendait, toutes les nouvelles idées musicales, il les absorbait.
C'est peut-être l'artiste, le pianiste que j'ai relevé le plus, écouté le plus, qui m'a le plus impressionné, influencé. J'ai copié sa musique. À la sortie de la terminale, j'ai monté un groupe, un quartet, qui était une réplique exacte de son groupe Return to Forever, c'est-à-dire basse, batterie, flûte et piano. Et qui faisait un jazz samba que j'avais jamais entendu autre part. C'est-à-dire, je me souviens que j'étais en terminale et j'ai découvert l'album Light as a Feather, qui est, ça veut dire léger comme une plume.
Oui.
Et c'est donc Chick Corea au piano et Fender Rhodes, Joe Farrell à la flûte, Stanley Clarke à la basse et Flora Purim au chant et Herto Moreira, le mari de Flora Purim, à la batterie et aux percussions. Et j'avais jamais entendu cette musique-là, un truc si sophistiqué, si doux, si léger mais dense en même temps le compositeur quoi, le compositeur et le pianiste quoi, les compositions sont géniales et le gars est un extraterrestre et en fait il y avait quatre pianistes comme ça qu'on écoutait c'était Herbie Hancock, Chick Corea, Keith Jarrett et Joe Zawinul c'était tous des lieutenants de Miles Davis et ils ont monté leur groupe au début des années 70 chacun qui ont été des groupes qui ont vraiment décloisonné, c'est-à-dire vraiment c'est les groupes qu'on appelait du jazz rock ou jazz fusion. Il y avait Weather Report, le groupe de Joe Zawinul, et Chick Corea, donc Return to Forever, et c'était un mélange de... Enfin, pour moi, oui, il y a tout. Il a absorbé la musique classique, la musique espagnole, enfin tout.
Dans votre panthéon existentiel, Chassol, il y a ce curieux morceau de John Cage, intitulé 4 minutes 33. J'en mets un extrait, les auditeurs vont sans doute penser qu'il y a un problème, mais non, justement, écoutez bien. Minute 33 de John Cage, exécuté le 29 août 1952 au Maverick Concert Hall à Woodstock par David Tudor, qui a fermé le couvercle du piano pendant le temps du morceau, entre guillemets. John Cage dit avoir passé 4 ans sur ce morceau. C'est difficile de ne pas voir ça comme une moquerie, comme un gag à la Duchamp.
Je viens d'avoir un gag en tête, parce que, en effet, le premier pianiste qui a créé ça, c'est David Tudor. David Tudor.
Ah oui.
David Tudor. Mais alors David ?
Oui, parce que David reste devant le piano pendant 4 minutes 33 sans rien faire.
Elle est très bonne, franchement, merci.
Et ça vous parle, Chassol, parce qu'en fait, c'est les bruits du public qui composent le morceau.
Oui, tous les bruits, quoi. Ça peut être le stage qui craque. C'est encadré un moment. Il nous révèle, John Cage, avec ça, qu'il n'y a pas de silence. Vous savez, je crois qu'il était dans une pièce sans son et qu'il a entendu son cœur battre ou la circulation sanguine. Donc il s'est dit, il n'y a pas de son, ça n'existe pas qu'il n'y ait pas de son. Et donc, il dévoile des moments où tous les sons deviennent intéressants. Au partir du moment où l'œuvre commence, là où il faut être à la guet et guetter tout le moindre son, et c'est ça la pièce.
Chassol, on va écouter un morceau de votre dernier album Ludi, construit autour du jeu.
Lequel ?
On a choisi Les Anneaux de Saturne, avec Bertrand Burgala à la basse, et dans les chœurs, Alice Lewis, Alice Orpheus et Thomas de Pourquerie, j'ai dit.
Oui, c'est ça, ouais.
C'est ça ?
Ouais.
On écoute. Les anneaux de Saturne sont beaux, et je cours parmi les oiseaux nus, poursuivi par les loups, solitaire et affamé. Les anneaux de Saturne sont beaux. Je cours parmi les oiseaux nus, poursuivi par les loups, solitaire et affamé, sous des éclats d'astéroïdes, et j'entends la musique céleste me susurrer des mots d'amour. Vous écoutez L'Embellie sur France Inter, toujours en compagnie de Chassol, dont on entend le titre « Les anneaux de Saturne » sur l'album Ludi. C'est justement le jeu et la blague que nous célébrons à présent, puisque je vous ai demandé, Chassol, ce qu'il fallait voir pour être armé dans l'existence, et vous avez choisi un duo comique américain.
How was your week?
Oh, the Lord is with me, but the devil, he got his hands on my grandniece, Grace.
Oh, no.
Or Esther, you know that I love all things that are good and holy. Mm-hmm. But if he doesn't let go of my grandniece, Grace, I'm going to cut the devil's dick off and shove it in his ass.
Mm-hmm.
With my prayers.
I know you will.
Le duo comique Kay and Peel, interprétant deux grands-mères, Esther et Georgina, dans une église. Elles sont très en colère contre Satan qui a pris le contrôle d'une petite nièce. Et elles décrivent ce qu'elles aimeraient infliger comme sévices au diable en ajoutant à chaque fois à la fin « par le biais de la prière ». Kay et Peel, c'est Keegan Michael Kay et Jordan Peel, le réalisateur de films d'horreur.
Mm-hmm. Ouais, je les adore. Que vous dire, ils ont une routine, ils sont, c'est des génies de la comédie, voilà. C'est un duo de, c'est deux Afro-Américains qui peuvent tout jouer, quoi. Ils peuvent jouer des grands-mères, des enfants, des blancs, des noirs, des arabes, des zombies. C'est très très bien, les sketchs sont très très bien réalisés, vraiment façon Hollywood, quoi. C'est assez important parce qu'ils sont vraiment plongés dans des décors et on y croit, quoi. Alors qu'ils ont toujours eux deux et leur même tête, leur même grosse tête. Et c'est des génies comiques et ils arrivent à créer du malaise, beaucoup de malaise, des situations méta aussi, beaucoup d'absurdes, mais avec de la sociologie, des choses hyper bien vues, quoi. Je sais pas, des analyses sociologiques hyper bien vues, avec du gros comique de gênance, de malaise, je sais pas, ils ont capté un truc. Et puis c'est aussi des imitateurs, ils sont, enfin, il y a Jordan Peele, il fait Obama, mais c'est un maître, c'est des maîtres. Voilà, c'est ce qui me fait le plus rire et je pense, bah voilà, j'imagine que l'humour, c'est une très bonne arme dans la vie.
Ouais. Dans vos choix, Chassol, il y a aussi n'importe quel roman d'Herman Hesse, Siddhartha, Narcisse Engelmann ou Le jeu des perles de verre dont vous vous êtes inspiré pour l'album Ludi.
Oui.
Alors commençons par Le jeu des perles de verre, paru en 1943, où il est question d'un jeu qui réalise à ses débuts la synthèse pythagoricienne de la musique et des mathématiques, puis par la suite de toutes les connaissances humaines. En résumé, c'est le fantasme de l'art total.
Voilà, l'art total, mais on sait bien que c'est vain, c'est des trucs qu'on lit aussi adolescents, c'est des romans initiatiques d'ado un peu, mais je veux dire, on peut les lire à tout âge, hein, mais c'est vrai que je suis plus dans ces fantasmes d'art total. Je sais, on parlait de minutie et de choses d'infiniment petit tout à l'heure.
Mais vous l'avez été.
Ah ouais, bien oui, complètement. Ou souvent aussi dans les premiers albums, on veut tout mettre. Vous savez, et donc mon premier album qui s'appelle X Piano, vous pouvez, il est chouette. Hein. C'est un double
c'est
album.
C'est vrai qu'il est chouette.
Franchement, il y a plein de petites pièces qui passent de la musique électronique, musique concrète, musique contemporaine, jazz, pop. Voilà, on veut tout mettre. Il y a 32 titres dedans. Enfin,
vous n'auriez pas fait le même album aujourd'hui.
Bah, en fait, c'est difficile de dire ça parce que le premier album, c'est faire un premier album. Il n'y a qu'un seul premier album. Je sais plus ce qu'on disait, c'était sur l'art total chez S, c'est ça, on parlait d'Herman Hesse.
Ouais, Siddhartha par exemple, ça vous a fait aller en Inde, Chassol? Moi j'ai lu ça dans une interview.
Non, c'est pas tant que Siddhartha qui m'a fait aller en Inde, c'est vraiment la musique indienne.
D'accord.
C'est vraiment l'amour de la musique indienne et du cosmos, quoi.
D'accord.
Mais non, moi c'était vraiment Narcisse Engelmann, c'est ses bouquins où quand on est jeune adulte. Ou à la sortie du lycée, on se cherche, on veut savoir qui on est, et on a des personnages qui partent comme ça, qui partent découvrir le monde, et qui essayent de devenir des artistes, et qui essayent de sculpter le visage de leur mère. c'est toujours la même opposition. Chez S, c'est toujours cette opposition entre, je sais pas, la terre et le ciel, le spirituel et la raison, Apollinien, Dionysiaque, le père, la mère. Et alors, il explique que, qu'il n'y a pas besoin de choisir, qu'on est les deux un peu tout le temps, quoi.
Quel est votre rapport au spirituel, Chassol?
Je me méfie toujours des trucs un peu New Age. J'ai appris à me méfier de ça, à être. Et dans le même moment, je vois bien qu'à chaque création, même si j'essaie de la ramener à quelque chose de rationnel, à avoir une logique, je vois bien qu'il y a toujours un moment qui m'échappe. Il y a toujours un petit moment, mais ce moment, j'essaye de le. de le rationaliser justement, d'essayer de comprendre comment il... Enfin, c'est comme quand on se fabrique un endroit pour improviser. Alors, on se structure un endroit pour l'improvisation.
D'accord, un cadre.
Un cadre, ouais.
Toujours l'idée de cadre et de magie à l'intérieur.
Ouais, voilà, il peut y avoir... on peut encadrer la magie.
Ou le silence, comme John Cage.
Ouais, ouais. J'essaye d'apprivoiser un peu le moment mystérieux, ouais. Mais sachant que c'est impossible.
Buying on credit is so nice.
One look at us and they charge twice.
I have my own washing machine.
What will you have though to keep clean?
Skyscrapers bloom in America. Cadillac bloom in America. Industry boom in America.
Wealth in a room in America.
Vous la connaissez par cœur, Chassol, la bande originale de West Side Story de Jerome Robbins et Robert Wise, bande originale signée Leonard Bernstein. On entend le morceau America par, entre autres, Rita Moreno et George Chakiris, mais ils sont pleins. Vous le regardiez petit, West Side Story?
Je regarde toujours.
Vous le regardez toujours?
Oui.
Je vous ai demandé ce que vous aimeriez accomplir au cours de votre vie, vous avez répondu West Side Story.
Oui.
C'est-à-dire?
Bah, pardon. J'aimerais... ouais, j'aimerais bien faire une pièce qui soit aussi exigeante et populaire en même temps, quoi. Que les gens aiment chanter, mais qui soit, qui fasse avancer les choses musicalement.
Votre ambition première, c'était de composer pour le cinéma. Vous avez fait des BO de films, par exemple Tout simplement Noir de Jean-Pascal Zadi, Dark Touch de Marina Devan, je n'en cite que quelques-uns.
Ouais.
Votre maître, c'est Ennio Morricone.
Oui, mon dieu, c'est Jerry Goldsmith.
D'accord.
Mais mon maître, c'est Ennio Morricone.
C'est pas mal d'avoir un dieu et un maître.
Ah ouais. Ni dieu ni maître.
Oui, c'est le contraire.
À part Jerry Goldsmith et Ennio Morricone.
Dieu et maître, par Chassol.
Ouais. Ennio Morricone, il est fascinant. Il y a toute sa façon d'agencer les accords, des accords très simples. Je sais pas, de toucher le poil qui se hérisse, facile, c'est lui. Jerry Goldsmith, c'est l'avant-garde au service d'un art populaire, quoi, du cinéma. Donc, par exemple, La Planète des Singes, je conseille à tout le monde d'écouter la bande originale, enfin, la musique du film La Planète des Singes de 69. Ou encore mieux, Jerry Goldsmith, ce serait La Malédiction. Alors, je vous conseille La Malédiction, c'est un film sorti en 76, et Jerry Goldsmith a gagné l'Oscar de la meilleure musique en 76. Pour ce film, et il était en compétition avec les plus grands, les plus forts, Lalo Schifrin, Bernard Herrmann, etc. Donc Jerry Goldsmith, si vous voulez, foncez, La Malédiction.
Nous foncons. Chassol, une question par curiosité. Vous avez fait un thème musical pour Gaumont.
Oui.
Donc on entendait une de vos compositions au cinéma.
Oui.
Bah c'est rare. Bravo. C'est chic.
Oui, c'est chic.
Oui, c'est chic.
Je sais pas.
C'est chic.
Là, j'ai fait celle pour... J'ai fait tout Arte, là.
Oui, c'est assez chic aussi.
Récemment, là, c'est nouveau, là, ça passe, c'est assez agréable. J'aime bien être dans la pop culture comme ça. Ouais.
Est-ce que vous nous diriez en quelques secondes pourquoi vous recommandez l'expo Musique Animale, le grand bestiaire sonore, jusqu'au 29 janvier à la Philharmonie?
Bon, parce que ça permet d'ouvrir ses oreilles aux vivants et que.
On entend des animaux.
On y entend les liens entre musique, animaux, humains, tout ça, et que ça permet après, dans sa vie de tous les jours, de considérer chaque son, chaque chose du vivant avec intérêt.
Chassol, on arrive à l'engagement de fin d'émission. Lire plus.
Ah oui, bah oui, j'aimerais bien arriver à lire plus. Là, je n'arrive à lire, en tout cas de romans, que pendant les vacances, quoi.
Ah oui.
Ah non, c'est triste. Et j'ai remarqué, enfin, c'est pas que j'ai remarqué, mais je sais que les choses qui restent imprimées dans ma tête, les idées qui restent, que j'arrive à malaxer, c'est des choses que j'ai lues, c'est moins des choses que j'ai vues.
Que lisez-vous en ce moment ou qu'allez-vous lire?
Là, en ce moment, je lis de la BD. Je lis beaucoup de BD. Je lis une BD sur Jill Scott Heron. Je lis beaucoup de BD. Je lis des BD en même temps. Mais là, en fait, j'étais dans Laurent Mauvignier. Comment s'appelle le bouquin? C'est un truc hyper flippant qui se passe à la campagne. L'histoire de la nuit. Oh, je connaissais pas ce type de langue, cette façon d'écrire, et je trouve fantastique. Et j'ai lu un autre bouquin cet été que je conseille à tout le monde, qui s'appelle Americana, Chimamanda Ngozi Adichie. Et alors, je me suis dit, tiens, mais je ne lis jamais de bouquins écrits par des femmes africaines. C'est fou quand même.
Il est formidable, ce livre.
Génial.
Chassol, merci beaucoup d'être venu dans cette émission.
Merci beaucoup de m'avoir invité, c'est très très agréable.
Eh bien, c'est réciproque. Votre dernier disque, Ludy, est paru sur le label Tricatel et l'on peut vous voir sur Arte dans l'émission Ground Control, enregistrée en public dans le lieu du même nom à Paris.
C'est gratuit, quand vous pouvez venir, c'est gratuit.
D'accord. Vous serez en concert le 20 novembre au festival Pianomania à Paris, le 9 décembre au Brise-Glace à Annecy.
C'est gratuit, tout est gratuit.
Non, c'est pas vrai. Le 10 décembre à Pontoise, au Point Commun Théâtre des Louvrets avec le flûtiste Jocelyn Mieniel, au Palais de la Porte Dorée à Paris le 3 février. Et un nouveau programme le 22 avril 2023 à la Philharmonie de Paris, Chassol joue Basquiat. Chers auditeurs, toutes les références vous attendent sur le site de l'émission, tout comme nous sur les réseaux sociaux. J'espère que votre humeur à l'allant d'un tourteau travaillant comme couronne royale à temps partiel. Rendez-vous dimanche prochain à 10h10.